France Culture.
Bienvenue à tous dans les Midi de Culture. À 13h, je recevrai Thibaut Garcia et Antoine Morinière qui reprennent les variations Goldberg à la guitare. Et vous verrez, enfin vous entendrez plutôt, c'est vraiment magnifique. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Sophie-Catherine Gallet toute cette semaine. Bonjour Sophie-Catherine, quoi de neuf dans le monde culturel ?
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le cinéma La Clé à Paris, qui devait fermer en 2019 et qui avait été occupé illégalement pour en empêcher la fermeture, vient d'annoncer sa réouverture définitive prévue le 14 janvier prochain. Quel a été le chemin jusqu'à cette réouverture et quelle sera l'identité du lieu, c'est notre dossier du jour. Chloé Follens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
Membre du collectif La Clé, ce collectif qui s'est constitué en 2019 pour occuper illégalement le cinéma La Clé qui devait être revendu et de fait disparaître. Alors il faut sans doute revenir justement au tout début, que représentait ce cinéma avant sa fermeture ?
Alors c'est un cinéma qui a ouvert en 1973 dans le quartier latin. Au début c'était un cinéma d'art et essai indépendant assez classique, quoique qui s'intéressait particulièrement aux films de jeunes auteurs. Mais c'est surtout dans les années 80, au moment où il est repris par à l'époque le comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne, qui veut en faire un centre culturel pour ses salariés et qui confie la programmation des deux salles à des associations, que va vraiment se forger l'identité du cinéma, notamment à travers l'association Images d'ailleurs, qui est programmée par Sanvi Panou et qui va faire de La Clé un espace de diffusion de films et de récits qui sont à l'époque marginalisés et très peu visibles dans les salles commerciales, notamment des cinémas africains, caribéens, africains-américains, plus tard latino-américains, du cinéma ouvrier. En gros, l'histoire de La Clé, c'est vraiment aussi une histoire d'engagement par et à travers les films.
Alors, l'occupation illégale de ce cinéma a donc débuté en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel a été le cheminement jusqu'à cette réouverture qui vient d'être annoncée et qui sera effective à partir du 14 janvier prochain ?
Oui, ça a été un long chemin. Donc, comme vous le disiez, il y a un collectif au moment où La Clé ferme parce que son propriétaire veut le vendre, qui se fédère. Alors, c'est des personnes qui viennent du milieu squat, des artistes, des jeunes professionnels du cinéma, des étudiants, qui se réunissent et qui décident d'initier une occupation illégale du cinéma. Ils entrent dans le bâtiment, rallument les projecteurs et rouvrent les portes. Et dès le premier soir de cette occupation qui vise à attirer l'attention sur cette salle qui est non seulement importante par son histoire, mais qui devient aussi un symbole de la façon dont les lieux culturels dans le quartier latin en particulier sont menacés par la flambée des prix de l'immobilier. Cette occupation, elle prend la forme de projections quotidiennes qui sont proposées bénévolement par le collectif et toujours accessibles à prix libre. Ce sont des films différents chaque soir que l'on peut montrer grâce à la solidarité des cinéastes, des ayants droit qui nous confient les droits de leurs films. Et l'idée, c'est d'avoir voilà, une programmation très libre, très éclectique, qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire de La Clé. Cette occupation, elle s'installe petit à petit dans le temps grâce à tous ses soutiens et grâce au travail de dizaines de bénévoles qui choisissent les films, s'occupent de la projection, du ménage ensemble. Et finalement, c'est cette expérience d'autogestion qui est très joyeuse, très formatrice et très créative que peu à peu le collectif souhaite inscrire dans le temps. Et donc, rapidement, commence à se dessiner l'idée de racheter nous-mêmes le cinéma pour pouvoir continuer à l'exploiter selon ce modèle qui s'est inventé dans ces murs. Et on s'inspire d'initiatives qui sont nées notamment dans le sillage de la ZAD, qui consiste à réfléchir à la façon de sécuriser des biens fonciers en les sortant du marché immobilier, en les arrachant à la pression spéculative pour les doter d'usages d'intérêt public et les confier à des collectifs d'usagers qui partagent à la fois la responsabilité du soin du lieu et le pouvoir de décider collectivement de ce qu'ils vont en faire. Et donc, inspiré par ces modèles juridiques, on crée un fonds de dotation qui s'appelle Cinema Revival, dans l'idée de racheter nous-mêmes le cinéma, puisque c'est un outil qui permet de collecter des dons, de créer des souscriptions populaires et qui n'a ni part ni actionnaire. Donc nous, on s'est servi de cet outil voilà, pour commencer à collecter de l'argent avec pour idée de racheter La Clé et de la confier aux personnes qui l'animaient. Et donc l'occupation va durer 2 ans et demi jusqu'à l'expulsion en mars 2022 et c'est là que s'enclenche une phase de levée de fonds un peu plus intensive. Ça va prendre encore 2 ans. On a finalement racheté le cinéma en juin 2024 et depuis lors on était en rénovation. Les travaux viennent de s'achever et donc c'est pour ça qu'on a pu annoncer une réouverture au 14 janvier prochain.
Et dans les communiqués de presse, on est frappé par le terme de réouverture définitive. Alors est-ce que la manière dont le cinéma est géré aujourd'hui garantit justement qu'il soit plus vendu? Et comment vous avez pensé et mis en place cette autogestion, ce passage du squat au fait d'être propriétaire? Sur quel modèle économique ça se construit?
Oui, alors l'ouverture définitive, c'est quelque chose qui est lié à la façon dont on a rédigé les statuts du fonds de dotation, qui est donc la structure qui détient les titres de propriété du cinéma. Dans ces statuts, elle n'a pas le droit de revendre le lieu pour générer un profit. Elle doit s'assurer que le lieu reste exploité comme un cinéma indépendant, par un collectif réuni en association de gouvernance collégiale et qui programme collectivement des films peu diffusés en pratiquant des tarifs solidaires. Voilà, dans les statuts du fonds de dotation et dans le bail par lequel le fonds a confié le lieu à l'association La Clé Revival, qui l'exploite désormais, toutes ces obligations sont listées qui sécurisent, garantissent, pérennisent les usages du lieu. Et pour ce qui est du transfert d'une expérience voilà née avec toute la liberté que permettait le squat vers un cadre plus légal, bah, ça implique effectivement de faire des choix. Le bâtiment, il coûte cher. Pour acheter le bâtiment, on a dû contracter un emprunt en plus des dons. Donc, on a d'importants coûts fixes qu'il faut désormais prendre en compte. Nous, on tenait beaucoup dans la légalité à conserver le principe du prix libre, qui est une pratique solidaire qui permet à tout le monde d'accéder à la culture, quels que soient ses moyens. Et donc, la façon qu'on a trouvé de conserver ce prix libre à l'accueil et des prix bas au bar pour que le lieu reste aussi ouvert et accessible que possible, c'est d'aménager notamment dans une partie du bâtiment qui n'est pas accessible au public puisqu'il est très grand. Ça fait quasiment 900 mètres carrés, c'est très labyrinthique, c'est pour ça que la rénovation a pris du temps. On a aménagé des salles de montage, images et sons qui vont être mises en location et c'est ça qui permet d'équilibrer le budget du lieu. Et donc de décharger la programmation de ces questions de rentabilité.
Ouais.
Voilà, permettre aux programmateurs et programmatrices bénévoles de montrer les films qu'ils aiment sans se préoccuper de savoir s'il y aura 30 ou 150 spectateurs dans la salle.
Et justement, alors à propos de programmation, donc la première projection connue, ce sera le 15 janvier à 20h et c'est une carte blanche à Céline Sciamma qui présentera Regrouping de Lizzie Borden. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la programmation à venir justement et pourquoi ce choix-là en particulier pour la première projection?
Alors, il y aura une projection la veille, le 14, mais qui est encore en discussion. Le calendrier s'étant beaucoup accéléré ces dernières semaines, tout n'est pas encore calé pour le 14 janvier, mais le programme sera annoncé le 5, aussitôt à la rentrée. La projection du 15, Céline Sciamma, c'est une personne qui a accompagné la clé de longue date. Elle fait notamment partie du conseil d'administration du fonds. C'est l'une des personnes qui est garante à nos côtés du fait que ce lieu reste un cinéma indépendant, militant, autogéré. Voilà, donc c'est une compagnonne de route de cette longue lutte pour la clé et ça faisait sens de la convier notamment parce qu'elle va projeter ce film de Lizzie Borden qui est aussi une réalisatrice qu'on a beaucoup montré et qui parle de collectif, qui parle de communauté en marge, en l'occurrence la communauté lesbienne. Voilà, donc cette séance, elle fait sens pour cette raison. Mais la programmation telle qu'elle est en train de se dessiner à la rentrée, elle est vraiment le reflet de ce qui se passait pendant l'occupation, c'est-à-dire des sensibilités différentes qui sont tenues par une même ligne, qui est celle de valoriser des films peu diffusés ailleurs. Mais ça peut être des films de patrimoine qui ont été perdus, comme c'est le cas du film de Lizzie Borden. Ça peut être des films contemporains qui parle de lutte d'aujourd'hui, des documentaires, des films de jeunes cinéastes. Voilà, tous ces films qui passent plutôt généralement dans le circuit des festivals et n'ont pas toujours l'opportunité d'une sortie, c'est des œuvres auxquelles on va être particulièrement attentif à la clé.
Merci beaucoup Chloé Follens.
Avec plaisir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, on a appris le décès ce samedi du comédien Pierre Vial à l'âge de 97 ans.
Pierre Vial, entré à la Comédie Française en 1989 et sociétaire honoraire depuis 10 ans, était connu du grand public pour son rôle de l'enchanteur dans Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Homme de théâtre, il avait également joué dans plusieurs mises en scène d'Antoine Vitez, comme Hamlet de Shakespeare ou encore Le Soulier de Satin de Paul Claudel. Pierre Vial avait en parallèle mené une carrière de metteur en scène, mais aussi de professeur, notamment au Théâtre National de Chaillot depuis 1998.
Et pour finir, Sophie Catherine, le château de Chambord est contraint à des travaux d'urgence pour éviter la ruine.
La direction du deuxième château le plus visité de France avait lancé en septembre un appel aux dons pour restaurer l'aile François Ier, endommagée par des malfaçons et par les conséquences du réchauffement climatique. Le 19 décembre, la Fondation du patrimoine a annoncé un soutien de 1,38 million d'euros. En parallèle, un amendement au projet de loi de finances prévoit en 2026 un abattement fiscal de 75% au lieu des 66% habituels pour les dons de moins 500 000 euros destinés à la restauration de Chambord. Une dotation exceptionnelle de 6 millions d'euros a également été votée par le Parlement.
Merci beaucoup Sophie-Catherine et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. Pour l'heure, il est 13h et vous êtes sur France Culture.